Radio Pluriel. Radio Pluriel. Numéro 1 sur la diversité.
Eh bien, chers amis auditrices et auditeurs, bienvenue ici en direct dans le studio de Radio Pluriel à Saint-Priest, où nous recevons ce jour la puissance gourmande italienne. Nous avons deux invités, qui plus est, deux invités de choix. Annibale Fracasso, qui est secrétaire général de la Chambre de commerce italienne pour la France et responsable du bureau de Lyon. Et puis nous avons un champion du monde qui est arrivé sur le podium, le champion du monde de tiramisu avec sa belle médaille de bronze, Antonello Cabra, alias Lello. Messieurs, bonjour. Ce n'est pas un hasard si on vous reçoit aujourd'hui. Je crois, mon cher Annibale, que c'est la semaine de la cuisine italienne en France.
Oui, en effet. Bonjour à tous les auditeurs. Donc, merci beaucoup, notamment à Radio Pluriel, pour cette émission dédiée à l'Italie. Mais cette semaine, en effet, tu as parfaitement raison, Michel, c'est la semaine de la cuisine italienne en France, que c'est un projet promu par le gouvernement italien. Et c'est dans le cadre de notre demande qui a été faite des reconnaissances par l'UNESCO de la cuisine italienne au patrimoine immatériel de l'humanité. Et donc c'est une proposition qui est due plutôt vers l'art intemporel de savourer la vie à table italienne, che c'est après une garantie évidemment des véritables sens de la dolce vita italienne. Voilà.
La cuisine italienne, ce sont des chefs, mais au-delà de ces chefs, ce sont avant toute chose des produits. On en parlera tout à l'heure avec aussi celui qui est chef dans la vie et qui cuisine bien l'Italie, les saveurs de l'Italie, le soleil de l'Italie. Les produits, c'est fondamental dans une cuisine, Annibale.
Oui, en effet, nous avons souvent l'image d'une cuisine comme celle-ci italienne qui est faite avec des produits qui sont souvent des produits très simples, je dirais presque des produits que tout le monde peut trouver sur les étals des marchés, mais même dans son petit jardin. Donc voilà, ça c'est un petit peu la diversité et la richesse des produits agroalimentaires italiens qu'ils changent de région en région. Donc en Italie, nous n'avons pas une cuisine qui est nationale. C'est très compliqué de trouver un plat qui est un plat national italien, à part évidemment la pasta, mais la pasta c'est notre symbole.
C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Lorsque vous demandez à un autochtone, un français, par exemple, citez-moi des produits italiens, il va vous dire la pasta,
exactement,
les pâtes,
exactement.
Et puis il va vous dire les pizzas.
Et les pizzas,
mais
exactement.
C'est loin d'être uniquement ça, la cuisine
surtout
italienne.
Surtout pas, justement, la cuisine italienne, c'est pleine de petites saveurs, mais même les mêmes pâtes.
Des petites et des grandes saveurs.
Voilà, hein. Des petites et des grandes saveurs, et aussi des grandes couleurs, parce que nous, on fait beaucoup d'attention, notamment à la préparation du plat, qu'il doit, évidemment, représenter. Souvent, nous, on dit en Italie qu'on mange d'abord avec les yeux et après, évidemment, avec la bouche. Donc, c'est aussi une présentation qui est faite à travers beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, beaucoup notamment des couleurs qui viennent de nos épices qu'on trouve à niveau national et aussi ailleurs. Mais voilà, c'est une tendance notamment italienne que c'est surtout celle-ci de donner une richesse aux produits.
Vous parlez de couleurs, Annibale. C'est vrai, lorsque l'on regarde le drapeau italien, ce sont des couleurs vives qui pètent, le vert, le rouge. C'est un peu à l'image de votre cuisine.
Oui.
Ou alors la cuisine est à l'image du drapeau.
Oui, mais en effet, voilà, la plupart des images de la cuisine, on les retrouve toujours avec les rouges, les blancs et les verts. Je pense tout de suite à les pesto, évidemment, actuellement très à la mode, donc avec les basiliques, que c'est une de nos produits phares dans toute l'Italie, grâce au soleil. À les tomates, qui évidemment c'est aussi les rouges, et à les blancs, qui représentent un petit peu, mais non, la mozzarella, que, comme vous savez, c'est un produit maintenant mondialement reconnu et qui pour nous représente un petit peu l'essence plus intéressante du lait des bouflons ou du lait des vaches. Et que ça a permis évidemment d'être très consommé. Il donne aussi un goût particulier à tous les plats.
Lello, vous pensez quoi en définition de cette cuisine italienne ? Vous qui êtes chef, qui êtes italien d'origine, on pourra parler aussi de votre région d'origine, très belle région. C'est quoi la cuisine italienne pour vous qui officiez en France ?
Bonjour à tutti et merci à Radio Pluriel de nous avoir aujourd'hui. Alors, la cuisine italienne, pour moi, c'est juste, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est l'image du drapeau, c'est vif, c'est plein de couleurs. Et pour moi, c'est plein de partages. Tous les plats, ils sont faits avec respect de la tradition, de la recherche du produit, de la mise en valeur du produit, comme on parlait tout à l'heure du produit. Les produits pour une cuisine, et surtout une cuisine italienne comme la française, on s'est rassemblé énormément comme cuisine. On a cette différence dans toutes les régions. Et en fait, la cuisine, il y a beaucoup d'amour qui est transmis de génération en génération. Et après, la mise en œuvre dans les assiettes, c'est la dégustation, c'est la chose la plus importante.
Ça me fait tout de suite penser à une chose, ou plus exactement un mot. L'on parle souvent des mamas italiennes.
La mamma italienne.
Alors ça, c'est aussi quelque chose, c'est un patrimoine.
Exactement.
Quelques mots sur les mamas.
Sur la mamma, moi j'ai...
Vous-même, la vôtre, cuisinez déjà ?
Tout à fait. Ma cuisine, elle est inspirée à 2000% sous ma mamma et sous ma grand-mère, et je continuerai à transmettre ça à vie.
Lorsque l'on regarde, lorsque l'on discute avec les uns, les autres, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de sang italien parmi les Français. Bon, c'est vrai que la Savoie n'était pas loin, l'Italie n'était pas loin, même s'il y a des problèmes parfois avec les tunnels. On sent vraiment qu'il y a une osmose entre l'Italie et la France, et plus exactement la grande zone turinoise de Turin, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui une fois encore inclut la Savoie. Comment vous expliquez cette osmose transfrontalière ?
Je pense que c'est un amour qu'on partage avec un grand plaisir. On n'est pas très, très loin, et comme je disais tout à l'heure, ces cultures, elles se rassemblent énormément, et je pense que c'est génial.
Annibale, je voudrais que l'on parle, avant d'aller plus en détail dans la cuisine italienne, je voudrais que l'on parle de la chambre de commerce italienne pour la France, et particulièrement du bureau de Lyon que vous dirigez. Comment définir cette structure ? Quelle est-elle ? Y a-t-il un ministère au-dessus de tout ça ? Quelle est votre vocation ? Vous aidez les entreprises à s'implanter, voire à exporter en Italie ? On vous voit partout, tout le temps. C'est quand même une activité débordante. Et
oui.
Puis on dira un mot sur son, sur son président.
Oui, en effet, la Chambre des commerces italienne pour la France, qui a aussi un bureau à Lyon et aussi des autres bureaux sur la France, il s'occupe en général, il dépend du ministère des Affaires étrangères et aussi du ministère des développements économiques italiens, qui aujourd'hui il s'appelle le ministère du Made in Italy. Donc c'est une institution, donc c'est la deuxième institution présente sur le territoire après les consulats ou l'ambassade italienne, ça dépend évidemment si on est à Paris ou sur Lyon. Et il est aussi à ses côtés, il a l'Institut italien des cultures, donc ce sont les trois institutions diplomatiques qui sont présentes sur le territoire étranger. Il y a dans tout le monde, il y a 81 chambres de commerce italiennes. Il y en a dans certains pays comme la France, il y en a plusieurs, il y en a trois par exemple, en Allemagne il y en a deux, en général dans les autres pays plus petits de l'Europe il y en a un seul qui est basé dans la capitale. Nous on est basé à Lyon parce que Lyon...
Mais Lyon c'est une capitale, hein. Capitale mondiale de la gastronomie.
Exactement, c'est la capitale mondiale de la gastronomie, mais surtout parce que Lyon c'est la porte d'accès à la France via l'Italie, parce que bon, au-delà de toutes les liaisons et de notamment certains problèmes qu'il pourrait y avoir actuellement pour la côté des transports ferroviaires en particulier, mais en général, tout était fait pour arriver très rapidement sur les marchés français à travers les Alpes. Donc Lyon représente pour nous la porte d'accès, pas seulement en France, mais après aussi vers l'Espagne, vers l'Allemagne, vers la Grande-Bretagne, parce qu'il a un système évidemment de connexions très importantes et très diffusées.
Vous avez idée du nombre de concitoyens italiens qu'il y a dans cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes ?
Oui, alors donc dans toute la région...
C'est important aussi, ça explique l'importance indispensable de la présence italienne en Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, en effet, dans toute la région, on a environ presque 220 000 habitants. Seulement à Lyon, il y en a presque 25 000. Dans la métropole de Lyon, il y a presque 47 000. La plupart sont d'origine. Il vient à Lyon, par exemple, il vient de deux régions importantes en Italie. C'est la région de Rome, donc la Ciociaria en particulier, un territoire qui est entre Rome et Naples. Et après de la Sicile. Ça sont les deux côtés véritablement importants, mais on a un grand, notamment Lello Cabras, il est une des plus vives représentantes. On a aussi beaucoup de la Sardaigne. Vous savez, l'immigration italienne a été très large.
Citons également notre ami qui est chef de la préfète de région.
Hein. Exactement, le chef
Luca
notamment.
Voilà, oui, Luca San Giuliano.
Luca San Giuliano qui aujourd'hui, et ça c'est un petit peu pour nous...
Cuisinier de la République française.
Exact. Cuisinier de la République française parce qu'il est le cuisinier de la préfecture de Lyon, donc
chef exécutif,
et donc c'est très important, mais c'est important pour nous aussi tout ce que c'est l'agroalimentaire et surtout la fusion entre les recettes italiennes et des produits d'excellence qu'il y a à l'intérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier dans les territoires lyonnais.
Concrètement, quel service la Chambre de commerce offre-t-elle aux Français comme éventuellement aux Italiens?
Nous, on a une équipe, évidemment, qui est composée de presque 9 personnes à la Chambre de commerce et qui, normalement, ils favorisent justement tout ce que c'est la promotion de l'Italie vers la France. Mais nous avons un département très important qui est géré en particulier par mon adjointe, Madame Sala, qui donc il s'occupe en particulier aussi de tout les entrepreneurs français qui souhaitent trouver des partenaires en Italie ou qui souhaitent notamment amener des produits agroalimentaires français vers l'Italie, parce qu'il y a tellement un échange entre les deux pays. Et c'est pour ça qu'on est cousins, quand même, comme on dit nous en Italie régulièrement, qu'on parle de nos cousins français. Donc on a un tel plaisir à avoir notamment des échanges de produits, et beaucoup de produits français, ils sont déjà très importants, notamment sur les étals des marchés italiens.
Vous avez d'autres activités, je ne sais pas, au hasard, la TVA, des choses comme ça?
On avait la TVA.
C'est une question technique.
Non, mais on avait la TVA, mais maintenant avec les marchés uniques, évidemment, la TVA, souvent, il n'est pas tellement utilisé. Mais nous faisons surtout beaucoup des missions pour amener notamment des entrepreneurs et des Français vers l'Italie, pour lui faire connaître des produits de qualité. Actuellement, on a une mission qui est dédiée justement à un des produits aussi phares italiens, que c'est sur les glaces italiens, et qui va aller notamment avec une mission de 5 personnes qui vont aller à nos avec notre organisation, c'est Madame Giglio qui s'occupe à la Chambre de commerce de ça et qu'il va être en particulier amené près de Venise pour voir la plus importante foire dédiée à la glace italienne avec les concours national et international pour faire connaître véritablement les produits italiens et probablement pour ouvrir de nouveaux partenariats avec des producteurs de machines, de glaces, des nouveaux parfums vers la France et vice-versa.
C'est pas l'Italie qui a inventé la glace ?
Oui, elle a été amenée, comme vous savez, par Caterina de Medici. Donc à Paris lors de son voyage, les premières glaces ont été en particulier amenées sur Lyon de la part de Caterina Medici, parce que comme vous savez, il s'était marié à Lyon et donc c'était dans les banquets du mariage, il y avait des glaces italiennes. Et à partir de là, poi, s'est diffusé évidemment sur tout l'intérêt français, en particulier sur les glaces. Mais comme vous avez... Je vous donne aussi une information particulière. Les Français, à niveau statistique, ils mangent beaucoup plus de glace des Italiens. Ça peut sembler drôle, mais à niveau sur l'année, les Français ils consomment beaucoup plus de glace que non pas les Italiens, même s'il y a une petite différence, mais significative. Mais les premiers pays en Europe, c'est l'Allemagne, le deuxième, c'est la France, et le troisième, c'est l'Italie comme consommation de glace.
Même l'hiver, on mange des glaces, Antonello.
Pour moi, en qualité d'Italien, en fait, moi je suis sarde, et en Sardaigne, on consommait exclusivement la glace qu'est l'été. L'été, quand même, en Sardaigne, ça dure des fin avril jusqu'à octobre. Du coup, on avait quoi faire pour manger des glaces.
J'en profite, mon cher Lello, Antonello Cabra, pour vous demander qui êtes-vous, en fait ? On vous connaît comme cuisinier, on vous connaît comme, comment dirais-je, exportateur de la cuisine italienne, à droite, à gauche, un peu partout. Quel est votre job ? Et puis après, on parlera des concours que vous faites et de ceux que vous gagnez.
Alors, mon job, Lello, je suis arrivé, ça fait bientôt 11 ans à Lyon.
Quel âge avez-vous ?
43.
Vous ne les faites pas ?
Merci, c'est gentil ça.
C'est poli.
Tout à fait. Arrivé, ça fait bientôt 11 ans à Lyon et je me suis fait adopter par cette magnifique ville comme un jeune, parce que je suis vieux là.
Non, un jeune.
Et je me sens de plus en plus lyonnais de cœur et c'est fantastique, c'est une ville qui est géniale et j'ai démarré l'aventure, ça fait 11 ans. Et j'ai ouvert mon premier resto avec ma compagne, qui est mon associée, qui m'a aidé à monter le premier établissement, Pauline. Et je ne sais pas s'il nous écoute, mais je profite pour la saluer.
Et puis l'embrasser. Oui, Pauline, c'est le nom du restaurant ?
Non, le resto, c'est Lello.
Tout simplement. Et pourquoi Lello par rapport à Antonello ? C'est un diminutif.
Lello, c'est mon diminutif. Et dans mon village, en fait, c'est rigolo parce que j'en ai parlé hier avec quelqu'un. Et en fait, dans mon village, Antonello Cabras, on a peut-être une quinzaine. Et pour se différencier l'un et les autres, c'est Lello, le fils d'Helvetio, c'est mon papa. Lello, le fils du postier. Lello, le garagiste. Et on a vraiment... Pas beaucoup de fantaisie, tout le monde s'appelle Antonello Cabras dans mon village.
Lello, l'ami d'Annibale.
Ouais.
Alors donc, le restaurant, et puis où en êtes-vous maintenant et quelle était la cuisine que vous proposiez ? Enfin, je dis quelle était parce que vous allez nous expliquer pourquoi.
En fait, Lello, quand je suis arrivé sous Lyon, j'ai décidé d'ouvrir un resto traditionnel italien avec la cuisine inspirée des cuisines des mamans. Chose que j'ai toujours portée et je ferai toujours, comme je disais tout à l'heure. C'était une cuisine sans pizza, parce qu'il y a chacun son métier. Moi, je ne suis pas pizzaïole, je suis cuisinier.
Non, puis c'est important, un four dans un restaurant, ça prend de la place.
Tout à fait, aussi. Mais quand les pizzas sont bonnes, ça vaut le coup d'avoir un bon four. Et du coup, quand j'ai démarré l'aventure, c'était un resto où je faisais un peu comme en Italie. Les midis, un petit buffet avec des légumes de saison, deux plats du jour. Je n'ai jamais eu des cartes. J'ai toujours travaillé à l'ardoise avec des produits frais. Et après, trois ans plus tard, j'avais racheté le deuxième resto, qui était Lello La Cantine.
Juste à côté.
Juste à côté. il y avait la jolie cour intérieure. J'ai dit j'avais parce que je vous dirai à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on avait décidé de faire, c'était plutôt le côté street food. Parce que comme en Italie, différentes régions, différents types de cultures, de cuisines. Et l'idée, c'était d'avoir un resto bistronomique italien. On respectait les cuisines italiennes à 100%. Et à côté, j'ai rajouté mes grandes folies. Je partais en voyage, je ne sais pas, en Malaisie, ou, peu importe. Et j'ai trouvé un sel qui, pour moi, apportait quelque chose de plus sur mon plat. Et l'idée, c'est de
faire faire... C'était pas le sel de l'Himalaya, quand même.
Non.
C'était le sel de...
Bali. Qui était ramassé par une dame sous la plage. C'était incroyable. Et tous ces voyages, en fait... Ça, pour moi, c'est d'apporter ces petites touches dans les assiettes, c'est de ramener mes convives à un voyage avec moi et d'apporter aussi cette touche qui, pour moi, c'était importante de mettre sous la finition d'un plat ou de rajouter, par exemple, les kumbhava, j'adore, c'est un citron qui vient de Malaisie.
Kumbhava.
Ouais, kumbhava. Et qui est magnifique. Mais je fais des petits clins d'œil à des produits qui j'adore et qui, aujourd'hui, fait partie des parties, quand je fais un menu voyage, il fait partie toujours, presque toujours, d'une note, ou un dessert, ou dans le plat, parce que c'est un produit qu'on peut travailler facilement un peu partout.
Puis les chefs qui voyagent, comme vous, c'est toujours pour eux une façon de trouver le petit clin d'œil du produit, le petit tour de main qu'on n'utilise pas forcément, que l'on connaît, mais que l'on n'utilise pas. Tout ça est important, je veux dire, c'est comme, pas uniquement pour les cuisiniers, mais comme tout un chacun, voyager, c'est quand même la découverte du monde, et puis au-delà de ça, la découverte de soi-même.
Tout à fait, c'est un enrichissement très important, et qui est magnifique. Rencontres culturelles, différentes personnes, différentes façons. Moi, quand je pars en voyage, j'ai toujours un paquet de pâtes sur moi, et j'adore aller cuisiner dans les familles et faire un échange culturel. Des fois, les pâtes ne sont pas forcément les choses les plus appréciées, mais dans l'idée, c'est de passer un moment convivial à la table. Et des fois, les derniers voyages, c'était à Bali. Et j'ai partagé ça avec une famille, et c'était génial. On était tous assis par terre. Et ils avaient fait leur plat typique. Moi, j'avais fait mon plat de pâtes. Et on revient toujours à le moment de partage et de la générosité de la cuisine italienne.
Avec une sauce tomate à la bolognaise, par exemple?
Non, j'avais fait tout simple des tomates ramassées dans le jardin, du basilic ramassé dans leur jardin. Et c'est un basilic qui est un peu particulier. Les feuilles sont complètement différentes. Et il y a un goût aussi qui est un mélange entre le basilic et l'origan, mais qui était très bon. Tout ramassé dans le jardin, du coup l'idée c'était de faire des nasi goreng
avec elle. Nasi goreng, c'est du riz. Hein.
Tout à fait. Moi j'ai regardé, en fait, elle faisait son nasi goreng et moi je faisais les pâtes. On avait deux casseroles à un côté de l'autre et à côté elle m'a raconté l'histoire qu'elle, quand elle travaillait en Amérique, parce qu'elle était cuisinière et travaillait en Amérique, et qu'elle préparait la carbonara. Et du coup, elle m'avait dit qu'elle mettait la crème. Et là je l'ai regardé et en anglais je l'avais dit: every time you put the cream in the pasta, one Italian mother dies. Chaque fois que tu mets de la crème dans un carbonara, il y a une maman italienne qui meurt. Et là, elle me regarde et me fait: qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je dis: non, mais t'inquiète pas, c'est une blague. C'est...
Ouais, tu vas faire mourir les mamans italiennes.
Il faut pas mettre la crème dans les carbonara quand même.
Antonello, Lello, vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé au passé.
Tout à
fait. Ça veut dire que vous avez cessé cette activité? Et si oui, que faites-vous maintenant?
Alors, aujourd'hui, Lello s'était transformé. En fait, on avait l'Osteria, qui était la maison principale, qui était née, ça fait bientôt 11 ans, et qui va fermer les portes définitivement le 29 novembre, qui n'est plus ouvert au public, du coup. On avait changé les concepts, ça s'appelait la table de Lello, et qui, à la place d'avoir 45 places assises, il n'y avait que 12. Et on ouvrait que sur réservation à partir de 6 personnes. Et c'était une très belle aventure, mais pas rentable. Et du coup, aujourd'hui...
Oui, parce qu'il faut gagner un peu de sous quand même.
Quand on a un loyer à payer, des charges quand même, ça continue. Et c'était une très belle aventure. Et après, j'ai la chance depuis toujours d'accompagner la Chambre des commerces italienne, qui je suis le chef référent pour eux. Et du coup, j'ai toujours des missions grâce à eux. Et j'accompagne ma pièce, qui est en maison d'hôte pour les entreprises, qui est située à Lyon. Aujourd'hui, il va y avoir bientôt 7 lieux. Et qui j'accompagne depuis 8 ans. Et c'est une question de confiance.
Accompagner, ça veut dire quoi? Vous faites accompagner.
On est plusieurs chefs à travailler dans ma pièce.
En fait, alors, j'explique. Ma pièce, ce sont des lieux. Il y en a, il y en a un vers la place Bellecour.
Jacobin,
il y en a un autre un peu dans le Vieux-Lyon. Alors, ce sont des lieux réceptifs dans lesquels, en général, il y a bien entendu des salles de réunion, possibilité de travailler, de faire des petits séminaires. Mais aussi, en général, il y a un lieu où un chef peut exercer son talent.
Tout à fait. Et aujourd'hui, on est plusieurs chefs à gérer référent. La restauration. Je vous cite quelques noms. Il y a moi, Jean-François Tête-Doie. Il y a
Fils de Christian Tête-Doie.
Tout à fait. Tabat et Ludovic May.
Tabata,
il y a Florian du Bistrot des Potagers. Et après, il y a encore quelques petits, quelques autres intervenants qui sont là. Et on sort depuis l'automne, on sort des collections. En fait, on fait chaque saison, il y a une collection qui sort. Et du coup, je suis ravi de partager cette aventure depuis 8 ans. Et j'accompagne ma pièce. Et aujourd'hui, moi, je travaille exclusivement pour ma pièce.
Si je vous dis Zucchero.
Zucchero, j'adore les chansons de Zucchero. Par contre, si jamais je dois demander une chanson, je demanderai Magnolia, qui est une chanson qui me rappelle mes vacances d'été et tous mes souvenirs.
Et c'est pas Magnolia de Claude François?
Non.
C'est Magnolia
de Negrita.
Negrita.
Poderti accarezzare, ma se vuoi, se tu...
Eh bien, chers amis auditrices et auditeurs, rappelons-le, nous sommes ici ce matin avec Antonello Cabras, un chef italien implanté en France, Annibale Fracasso, le secrétaire général de la Chambre de commerce italienne pour la France à Lyon, responsable du bureau de Lyon, pour parler de l'Italie, mais plus exactement pour parler des gourmandises de l'Italie, parce que ce pays voisin, ce pays ami, a tout un tas de produits de qualité, et puis de chefs de qualité, et puis une fois encore, répétons-le, l'Italie, la gourmandise italienne, ce ne sont pas que les pâtes, même si elles sont excellentes, ou encore la pizza, ce sont plein d'autres choses, de belles choses, qui vont des entrées jusqu'à la glace. Annibale Fracasso, c'est important de vérifier la qualité des produits, parce que je suppose que sur les produits italiens, comme sur les produits français, voire d'autres, il peut y avoir, le mot est peut-être un peu grossier, de la contrefaçon. Alors oui. Ça, c'est dans votre job de vérifier
effet.
Tout cela.
Oui, en effet, justement, le mot, ça peut être grossier, mais c'est un problème que c'est très important pour nous. Nous, à la Chambre de commerce, on a justement une équipe d'inspectrices, parce qu'elles sont trois filles, Benedetta, Lisa et Maram, qui justement ils s'occupent aussi de certifier les véritables restaurants italiens, les pizzerias et aussi les épiceries, parce que souvent nous tenons particulièrement en attention tout ce qui est vendu sous les noms italiens, mais surtout sous des noms qu'il doit être à 100% italien. Nous, on a un problème avec la cuisine italienne, avec les produits italiens, qu'ils sont véritablement à niveau mondial, que souvent on retrouve des faux produits italiens. Malgré certains produits, ils sont des produits AOC, donc ils sont garantis par des lois, et donc ils ne peuvent pas être produits hors du territoire. La plupart des produits
AOC ou AOP, que l'on appelle en Italie, si vous le verrez, vous pouvez peut-être le voir parfois sur les étiquettes, voilà. DOP,
donc dénomination d'origine protetta, donc dénomination d'origine protégée, parce que justement sont des produits d'excellence et qu'ils peuvent sortir simplement des mini territoires. Pensez par exemple al très fameux Parmigiano Reggiano, che ancora una volta on contraste le noms parmesan, mais le véritable, évidemment, Parmigiano Reggiano, ça sort d'un tout petit territoire qui est entre deux villes, donc justement Parma et Reggio Emilia. Donc il ne peut pas être produit au-delà de cet territoire, de ces deux villes. Le reste n'est pas un Parmigiano Reggiano, mais c'est un Grana Padano, che maintenant on voit même sur les publicités en France, que c'est un autre type de fromage qui peut lui ressembler, mais ce n'est pas le Parmigiano Reggiano. Donc ça, c'était en général notre plus importante mission. Donc, l'autre mission, c'est aussi...
C'est une mission de contrôle, d'audit, oui, de recommandation. Alors, Vous pouvez aller jusqu'à l'interdiction?
Oui, là. Alors nous allons évidemment empêcher, dans un certain sens, de vendre certains produits sur les noms italiens ou avec des couleurs italiennes, parce que souvent, les problèmes des produits qui sont vendus même au supermarché et qui ne sont pas italiens, c'est qu'ils utilisent un packaging, donc des couleurs qui rappellent les couleurs justement de l'Italie, des drapeaux italiens, et donc souvent les consommateurs est trompé, légèrement trompé, d'acheter un produit qui probablement n'est pas du tout, il n'a jamais presque vu l'Italie, mais pas. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Nous avons, comme je vous répète, notre section, disons, d'expertise. Nous certifions les restaurants véritablement italiens, qui ont une recette, qui ont toute une série d'atouts et qui achètent, parce que nous contrôlons les factures de où ils achètent leurs produits.
Et vous allez me parler, puisque vous dites les recommandations des restaurants italiens, Hospitalità Italiana.
Italiana, exactement.
Alors, c'est quoi ça?
Voilà,
c'est un
donc,
label que vous
voilà,
donnez?
Donc ça, c'est une véritable... Nous avons deux... Alors, nous avons deux certifications. La première, c'est Hospitalità Italiana. La deuxième, c'est Passione Italiana. La différence, c'est substantielle, dans le sens que la première, Hospitalità Italiana, c'est donné à travers une certification, donc une inspection, comme je venais de vous dire, même des factures pour savoir d'où arrivent leurs produits, mais en général des restaurants qu'ils doivent avoir véritablement comme mission de promouvoir la cuisine italienne.
Avec un chef italien,
avec un
qui,
chef
parle
italien,
italien qui utilise
voilà,
des produits
un chef italiens.
Italien,
ou un chef qui est français et qui, par exemple, il a fait des cours de cuisine certifiés, donc un diplôme de cuisine en Italie, ou encore un chef, que ça peut être français, mais qui a passé minimum 3 ans dans un restaurant italien. Donc ils doivent vraiment avoir absorbé tout qu'est-ce que c'est l'essence importante de la cuisine italienne, et donc ne pas surtout faire ce qu'on trouve souvent dans beaucoup de restaurants italiens, ça veut dire la révisitation d'un plat. Nous n'aimons pas évidemment les plats révisités parce que souvent ils n'ont rien à voir avec l'Italie, et surtout souvent ils n'utilisent pas les produits italiens non plus.
Revisiter, je reviens parce que je sais que c'est un petit peu le cheval de bataille de Lello. Vous êtes contre les plats revisités, ou du moins dans les titres. Pour vous, un plat, il y a une recette de base, à, on va dire à 5% près, mais le revisiter, eh ben, on est en dehors des bandes blanches.
On est hors quartier, on sort des zones... la tradition, c'est la tradition. On ne peut pas revisiter. Quand on fait un plat typique, on ne peut pas revisiter un filet rossini. C'est un filet rossini, c'est un filet rossini. On respecte la recette.
Vous mettez du foie gras en Italie dans le filet rossini ou dans le tournedos rossi?
Mais on a beaucoup dans la région, bah, plus on monte dans le nord de l'Italie, et plus on utilise, on a les touches des cuisines françaises très importantes. Dans le Piémont, c'est vraiment... Et il y a beaucoup qui parlent français aussi dans le Piémont.
Oui, en effet, moi je voulais intervenir parce que alors, c'est clair qu'un restaurant, il y a une règle que, comme on dit nous en Italie, c'est que les clients, c'est le roi. Donc, en effet, un restaurant, si le client il a un goût, il est à l'étranger, un restaurant italien qu'il est à l'étranger et que donc il est habitué, comme souvent dans beaucoup de pays européens ou même aux États-Unis, en Asie, à des goûts particuliers, alors. Le restaurant a toujours la tendance à se rapprocher du goût du client. OK. Donc, et là, je le vois avec les plats, que, disons, il est italien, mais je considère maintenant qu'il est un plat presque national français, ça veut dire la carbonara, la très fameuse carbonara. Cioè, il y a des restaurants qui, justement, ils la font avec la crème parce que les clients, ils demandent d'avoir un goût probablement plus suave, plus...
Attention la crème, hein, parce que
oui,
ça va
non,
faire
c'est
cuire
pour ça.
Les mamas. Hein.
Nous, justement, on a cette équipe de contrôle qu'il va dans des restaurants, évidemment, pour contrôler même comme il est fait la recette et...
Pas uniquement les factures.
Alors, déjà, pour nous, c'est très important, même les menus, comme l'écrit dans le restaurant italien, parce que se retrouver avec des linguini, con le linguine, c'est un pâte avec, disons, la fin, la E, à la place de la I. Cioè, nous, on part d'un présupposé que si dans le restaurant italien, on prend même pas, on fait même pas attention à comment on écrit les plats italiens, ça veut dire que probablement on n'est pas un véritable restaurant 100% italien. Donc, il faut même prendre des attentions vers ce qu'on a mis à table.
Alors, restaurant, assiette, plat, menu, Lello, parlez-moi de quelques produits typiquement italiens. Hein. On a parlé tour à tour du pesto, du basilic. On a peu parlé des vins... Même avec modération, mais il faut en parler. Le Spritz qui maintenant
qui
envahit
pris,
la France,
l'Aspi
Spumante, la Mozzarella, le Montepulciano, ça c'est un vin. Parlez-nous de quelques-uns de ces produits typiques et typiquement italiens. Parce que une semaine de la cuisine italienne en France, c'est quand même la base, ce sont les produits.
C'est clair. Ben, il y a des produits qui sont peut-être moins mis en valeur. C'est par exemple les pecorino sardo, qui est connu dans le monde entier, mais qui dans les tables françaises, on les retrouve de moins en moins. Parce qu'on
arrive... Quand vous dites les tables, c'est les tables.
Les tables. Je veux dire, les tables des restaurants.
Non, je vous taquine un peu. Non,
mais
parce
c'est gentil,
que
c'est gentil.
Avec votre accent chantant, les tables, c'est là où on met les vaches qui produisent
c'est,
du
les
lait.
Les tables, oui. C'est non, les tables.
Grazie mille.
C'est par exemple des fromages qu'ils ont du mal à produire et du coup de les exporter. Et du coup, il reste plutôt dans le territoire italien. On a des produits qui sont très nobles. Et par exemple, une chose qu'on parle très peu de l'Italie, on connaît que les grissini, taralini...
Ah, ces biscuits longs, ouais.
Qui sont très, très bons, très gourmands.
Et qui sont d'autant plus gourmands que l'on met un peu des jambons italiens dont vous allez nous parler. Les jambons.
Ouais, les jambons. On a plusieurs sortes de jambons, jambon cru. On a Parme qui est connu pour son jambon qui est plutôt doux. Après, on a le San Daniele, on a le Culatello.
San Daniele, qui est l'un des plus excellents, hein, San Daniele.
On a le Culatello, qui est la partie plus haute de la cuisse du cochon, et qui est génial, c'est des petits parts. On a des jambons, on peut en parler à vie, parce qu'en plus, chaque région a sa spécificité. Nous, en Sardaigne, on a les jambons de Fogni, qui est un jambon, qui sont beaucoup plus maigres, les cochons, parce qu'ils marchent, ils sont dans la nature.
Ils courent. Ils cherchent les glands.
Du coup, les cuisses sont plus fines. Et on met beaucoup de poivre. Après, je ne sais pas, on part à un Valais d'Aoste, on a du speck, ils font beaucoup plus de jambons qui sont fumés. On se rapproche dans le nord de l'Europe. Du coup, on se rapproche de la culture du fumage des jambons. Et je vais revenir au pain, pardon Michel, les pains, en fait on connaît, les plus connus sont les taralini, les grissini, mais en Italie on a une culture sur le pain spécifique.
Il n'y a pas que la coquillette française.
Et là, par exemple moi en Sardaigne on a le pane carasau, qui est un pain très très fin, on l'appelle la carta da musica, papier de musique, qui est très très fin et on le fait avec différents saveurs, à l'oignon, à l'huile d'olive, au romarin. Et c'est ça, pareil, c'est une bénédiction divine.
On dit même que la finesse doit être telle que l'on peut lire le journal.
Tout à fait.
Au travers. C'est un peu comme l'Apfelstrudel en Autriche.
Exact.
Vous n'avez pas parlé de l'huile. Vous n'avez pas parlé des olives. On a parlé du fromage, on a parlé des entrées, on a parlé des pastas. Mais il y a plein de produits italiens de qualité.
On a plein.
L'huile, parlez-moi des huiles, parlez-moi de l'olive.
Ou
d'abord l'olive et puis l'huile.
Et c'est pareil. Sous l'huile d'olive et sous les olives, on peut rester à parler des jours parce que pareil, on a des spécificités, on a la chance d'avoir.
Non, mais il y a une émission après. Hein.
Ah, mais non, mais c'est pour ça. Les olives qui est l'huile, en fait, chaque région a sa spécificité, ces olives qui sont produites dans certaines zones. Par exemple, le plus connu en France, c'est l'oliva di Cerignola, qui est une olive de Puy,
si.
Qui est grande, très charnue, très goûteuse. Et après, on va peut-être en Calabre, il y a des petites olives qui sont... Ce n'est pas très connu pour l'huile d'olive, la Calabre. Et en Sardaigne, pareil.
Non, c'est connu pour autre chose.
Oui.
Des pruneaux.
Oui. Il y a plein de régions qui ont... Et les goûts sont complètement différents de chaque région. La production, et comme tu dis, les vinaigres balsamiques, on peut parler pendant des jours et des jours.
Le vinaigre balsamique, je précise, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a du vinaigre balsamique blanc qui est exceptionnel.
Moi, je l'utilise énormément, parce que c'est beaucoup plus délicat.
C'est difficile d'en trouver sur Lyon.
Et surtout, je me permets de donner un conseil à
nos amis qui nous écoutent,
c'est qu'il faut faire beaucoup d'attention parce que, par exemple, les vinaigres balsamiques sont très, très, très utilisés. Je dirais qu'il est beaucoup plus utilisé en France que non pas en Italie parce que c'est un produit rare en Italie, exceptionnel. Il faut justement là aussi regarder bien parce que souvent en France, les vinaigres balsamiques, si vous regardez les ingrédients, donc si vous tournez la petite bouteille, il vous dit du caramel qu'il est mis dedans pour lui donner la coloration. Ça n'existe pas en Italie. Les vinaigres balsamiques, c'est un vinaigre qui existe depuis les 1400 en Italie et qui donc est fait toujours avec la même recette. Et on revient donc à ne pas tomber évidemment ça, sur les modes marketing que souvent il y a. Et je dis juste un petit mot sur l'huile d'olive que, évidemment, Michel, tu avais mentionné. Moi, je suis né dans ma famille originelle. Voilà, je suis presque né dans l'huile, dans le sens que j'ai encore les senteurs, évidemment, dans ma tête de cette grande cuvée dans laquelle il y avait l'huile d'olive produite par ma famille dans les Pouilles, que c'est la plus importante région de production d'huile d'olive. Et souvent, comme moi je fais, je prends juste une petite tranche de pain, j'ai mis juste de l'huile d'olive, des fois avec du sel, et basta, parce que ça me rappelle aussi quand j'étais petit.
Du sel italien.
Du sel français, même des Guerlandes,
je sais pas.
Voilà, donc des choses comme ça. Voilà, des choses comme ça que ça a permis notamment de me retrouver avec les saveurs que j'avais quand je suis pratiquement presque né, parce que j'ai ces souvenirs de mon grand-père qui m'amenait au moulin pour, avec les olives et qui ont passé toute la nuit, malgré moi je m'endormais évidemment, parce qu'on devait faire attention que les propriétaires du moulin ils mélangeaient pas nos olives avec les autres. Qu'il pouvait arriver si on lui laissait les olives, évidemment, de façon
ça,
libre.
Ça, c'est le côté un peu italien. Ça.
Oui, ça, c'est un petit côté italien, mais que ça donnait là aussi un certain goût, mais ça nous permettait d'avoir une longue discussion et souvent qu'il terminait, voilà, pas tellement de façon gentille, voilà, avec le propriétaire du moulin. Mais à la fin, on passait toute une nuit dans cette moulin, mais à la fin, on tenait notre magnifique huile d'olive qui était depuis, évidemment, des siècles qui ont fait ça.
Quelques produits encore, Lélo. Et puis, j'annonce à nos amis qu'ils peuvent préparer un papier et un crayon, parce que Lélo va nous donner, in fine, une recette de tiramisu. Et je dirai pourquoi le tiramisu dans quelques instants. Hannibal, malheureusement, la fin de l'émission approche. Faites-nous non pas une conclusion, parce qu'on a bien compris que ça durerait des jours. Cette semaine italienne, on répète, est-ce qu'il y a des choses particulières dans les restaurants italiens qui sont habilités Hospitalità Italia, par exemple, ou Passiona Italia? Redites-nous quelques mots sur cette semaine de la cuisine italienne.
Voilà, c'est très important. Évidemment, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais dans tous les restaurants qu'ils sont avec les logos Passion Italiana que vous trouvez, c'est un logo que vous trouvez à l'entrée du restaurant ou la plaque d'Hospitalità Italiana, vous trouverez des plats qui cette semaine ils sont mis à l'honneur sur des régions italiennes, différentes régions italiennes, avec des vins qu'ils vont avec et qui donc ils vous permettront de savourer de ces skis produits d'Italie. Après, des professionnels, même qu'ils sont évidemment del secteur de la restauration ou des épiceries. Donc voilà, c'est très important. C'est toute la semaine. Nous avons fait le tour de tous les plus gros. À Lyon,
alors,
il y en a.
La semaine, on va préciser la semaine.
Il termine dimanche.
Ouais, on va donner les dates parce
voilà,
que.
Il a commencé hier et il terminera dimanche. Donc, d'accord.
Comme nous allons rediffuser cette émission. Les dates, vous les avez?
Les dates, donc, c'est à partir du 14 juste
novembre.
Au 10 novembre jusqu'au 19 novembre, donc au soir. Et après, donc, c'est presque une semaine. En effet, tous les préparatifs ils ont commencé le lundi déjà, mais en effet, il est parti donc depuis hier officiellement et ça termine dimanche 19 novembre au soir.
En espérant que vous avez pu écouter en direct cette émission, parce que sinon, il faudra attendre d'autres événements.
Sinon, aller dans un restaurant, Hospitalità Italiana et Passion Italiana, où vous mangerez véritablement comme en Italie.
Vous prévoyez d'autres opérations qui vont mettre la cuisine italienne à l'honneur?
Si, à partir par exemple déjà de janvier, en décembre on fait évidemment toute une grosse opération sur les gâteaux italiens, en particulier sur les panettone, qui maintenant évidemment il est très important dans tout ce qui est les goûts français, mais en janvier, donc le 17 janvier 2024, c'est la journée mondiale de la pizza italienne. Donc on fait cette journée dédiée à la pizza, on le fait dans tout le monde évidemment, et on la fera en France avec des pizzeries qui sont certifiées 100% italiens.
On a parlé des restaurants, on n'a pas parlé des épiceries qui vendent des produits italiens, il y en a quand même quelques-unes qui font très bien leur boulot. Chez certains on peut même grignoter.
Tout à fait.
Au-delà des restaurants,
qui est une très belle chose. Moi, j'ai vu l'évolution. Moi, je suis arrivé en 2013 en France, à Lyon exactement, pour monter mon première affaire. Et c'est vrai que la cuisine italienne, elle n'était pas mise à l'honneur. On était très peu à faire très bien notre boulot. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir des restos, des vrais restos italiens qui s'installent et qui font très, très bien leur boulot. Et je tiens les chapeaux bas parce que c'est très bien ce que vous faites.
Comme vous, vous l'avez fait. Alors, il existe dans le monde, une association internationale, une fédération de la pâtisserie, de la glace, l'ice cream, c'est-à-dire la vraie glace, pas le sorbet à l'eau, et du chocolat. Et alors, cette fédération organise des concours. En particulier, elle vient d'organiser un concours. C'était les championnats du monde de tiramisu. Vous avez terminé, mon cher Lello. Et une fois encore, bravo, vive l'Italie.
Grazie.
Et vive Lello, Antonello Cabra. Vous avez terminé sur le podium de ces championnats du monde de tiramisu.
Exact.
Quelques mots sur cette compétition, parce que souvent, je vous ai vu chez vous vous entraîner avec un champion du monde dont on peut dire le nom.
Nabil Barina.
champion du monde de tiramisu il y a quelques années.
C'était l'ancien champion du monde qui aujourd'hui est champion du monde de pâtisserie.
Également. Et qui a exposé en chocolat un T-Rex, un tyrannosaure au salon du chocolat de 3 mètres, tout en délicatesse. Je ne sais pas comment il a fait pour le transporter. Le tiramisu, c'est quoi pour vous avant de nous donner la recette?
Les tiramisu, pour moi, c'est pareil, c'est un souvenir d'enfance et la recette qui m'a permis d'arriver dans le podium, c'est la recette de ma maman et que je ne changerai jamais. Et je vais partager.
Pas revisiter.
Un tiramisu, ça ne revisite pas. Si, on peut, en fonction de la saison. C'est pas revisiter. On fait une amélioration. Pas l'amélioration. L'amélioration, c'est pas bien. On fait un tiramisu de saison. Un tiramisu signature. Sinon, le tiramisu, ça reste cacao, savoyard, café et mascarpone et l'œuf.
Alors, j'attends la recette, mon cher Lello.
Ma recette, c'est tout simple.
On peut la noter, il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret, j'ai pas de secret. Après, chacun il a sa technique et son astuce, mais il n'y a pas de secret.
Tout est dans le bras droit.
Tout est dans le bras droit et un petit peu sous celui-là de gauche pour qu'on mélange l'appareil. 500 grammes d'œuf, 500 grammes de mascarpone, pardon. On a 4 œufs. On garde juste...
Le complet. Hein,
des œufs complets.
Quand on dit œuf, c'est complet.
Complet.
Blanc et jaune.
On utilise 500 grammes de mascarpone, 4 jaunes d'œufs, que 3 blancs. C'est important.
Ouais, voilà.
C'est important.
Il faut aller chercher les petits détails.
Oui, parce qu'en fait, les mascarpone, la plupart des personnes me disent « Ouais, mon mascarpone, mon appareil, elle est trop liquide. » En fait, c'est une chose très importante, c'est la quantité du blanc. Plus on met du blanc, plus l'appareil monte. Et deuxième astuce, c'est de faire très attention quand on monte notre appareil, mascarpone, sucre, qui ne tombe pas. Parce que si le fait tourner trop, ça tranche et c'est fini.
Bah, surtout s'il y a des blancs d'œufs. Hein.
Du coup, on a les 4 œufs, 3 jaunes d'œufs qu'on met avec les mascarpone, 75 grammes de sucre, pas plus.
Quel sucre?
Sucre, qu'est-ce que vous avez à la maison?
Du blanc, non?
Du sucre blanc, de préférence.
Oui, parce que si on prend du sucre brun ça sucre trop.
Et ça colore aussi, parce que la plupart des sucres bruns ne sont pas forcément des sucres bruns, mais c'est des sucres qui sont torréfiés. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend les 3 blancs d'œuf, on les monte à neige, on démarre doucement pour incorporer de l'air, et au fur et à mesure, on monte en vitesse, jusqu'à on les monte, on met l'appareil à fond, on tourne, et on rajoute juste une petite pincée de sucre pour fermer les blancs d'œufs. Une fois que les blancs d'œufs...
Pour les bloquer.
Pour les bloquer, exact. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève la cuve, on la met de côté, on filme, on met au frais. Et à côté, on prépare les mascarpone, les jaunes d'œufs, les sucres. Et on les fait démarrer pendant 2 minutes, doucement, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et pareil, et à fur et à mesure, on augmente la vitesse. Et quand on pense qu'on a une belle consistance, qui est bien ferme, bien dure, on enlève et on commence à mélanger les deux. Et j'ai oublié une chose très importante. Pendant tout ce temps, préparer du café, laisser
refroidir. Mais du café italien, du bon
un
café.
Un bon café italien, on les trouve un peu partout. Je ne fais pas de nom de marque, machin. Une fois qu'on a le café, utiliser des savoyards, prenez pas des langues de chat, savoyards, c'est un biscuit italien, on les trouve dans toutes les épiceries italiennes sous Lyon. Enfin, qu'on a préparé les appareils, du coup, vous mélangez les mascarpone avec les blancs d'œufs, vous faites monter du bas vers le haut avec un Maryse, et là, on dispose...
Maryse, c'est pas le
c'est
prénom
pas
de votre femme, hein.
De mon ex.
j'ai pas fait exprès.
Et du coup, on prépare l'appareil, et là, on va faire... La règle, il faut que pour bien tremper les biscuits, il faut que la température soit à 27 degrés. Là, vous trempez les biscuits, vous faites... si vous avez un plaque avec un
degrés,
gris...
27 degrés, la température du café.
Du café, tout à fait. Vous préparez un plaque avec un gris, vous trempez tous vos biscuits d'abord, comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne sont pas trop mouillés, parce que dans l'idée, c'est que les biscuits ne sont pas trop trempés. Bref, on fait couche de crème, vous prenez un plat, on fait un plat convivial. Couche de crème, vous disposez les biscuits, deuxième couche de crème... biscuits, couche de crème, saupoudrez un petit peu du cacao, vous les mettez au frais et je vous souhaite une très bonne dégustation. Et bon tiramisu à tutti.
Eh bien, chers amis, c'est presque l'heure de manger, ou du moins l'heure de préparer un excellent tiramisu avec la recette du champion du monde, Antonella Cabra. Merci Lello, merci Hannibal, et vive la semaine de la cuisine italienne en France et à Lyon. En particulier, merci à Radio Pluriel et merci à notre équipe technique. Bon appétit.
Bon appétit.